Cryptualité, semaine 8. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, aujourd'hui, tu es de mauvaise humeur.
Oui, ça va pas du tout. C'est de ma faute. C'est une erreur. Je suis dépité. J'en peux plus.
Voilà, tu seras fouetté. On ne dira pas de quoi il s'agit. Revue de presse, le point. Merci Persévérance. Le logiciel libre arrive sur Mars. Un article de Religion.
Et oui, avec les sondes qui sont envoyées, il y a du matériel, bien sûr, mais du logiciel aussi. Et dans ces logiciels, il y a beaucoup de logiciels libres. Il y a du Linux. Et donc, on est plutôt fiers et contents de voir que dans l'espace, on utilise du logiciel libre. C'est plutôt sympa.
Le monde informatique, la véritable valeur de l'open source dans le cloud. Un article de Matt Azet.
Alors, le cloud, c'est un sujet bien compliqué et bien général. Mais effectivement, il y a pas mal de choses que l'open source, c'est comme ça que ça se met dans l'article, apporte. Donc, c'est plutôt utile et pratique. Mais il faut quand même faire attention, hein. On peut toujours faire choper par des fournisseurs qui vont nous bloquer chez eux. Voilà, des cages dorées, on a des facilités, mais il faut faire attention à ne pas être enfermé, malheureusement. Oui. Même avec du logiciel libre, on peut être enfermé.
Bah oui, puisque si c'est un service hébergé, le fait que le logiciel soit libre ne change pas grand-chose pour nous dès lors qu'on dépend du service. IT for Business, l'open source s'invite dans le monde des processeurs, un article de David Feuget.
Alors, c'est pas nouveau, mais effectivement, on parle souvent du logiciel libre, donc logiciel. Mais la notion de libre qu'il y a derrière, elle s'applique pas qu'à du logiciel, elle s'applique à beaucoup, beaucoup d'autres domaines, notamment le matériel et les microprocesseurs. Donc, un article qui parle de ça.
Si on veut l'informatique vraiment libre, le matériel devrait être libre également, puisqu'il y a moyen de contourner toutes les libertés que le logiciel offre si le matériel est corrompu.
Mais c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas tous une usine à fabriquer des puces dans notre arrière-cour. C'est très complexe, ça demande des investissements de folie. Mais effectivement, les plans des microprocesseurs peuvent être partagés, travaillés en commun. Ça, c'est un bien commun, très compliqué à mettre en œuvre. Et donc justement, le partager et y travailler à plusieurs, c'est plutôt de la valeur ajoutée, c'est plutôt sympathique.
Numérama, l'assurance maladie critique le rôle de Microsoft dans l'hébergement des données de santé. Un article de Julien Lausson.
Alors, Microsoft et les données de santé, c'est voilà, la problématique du Health Data Hub.
On en parle depuis des semaines, hein, quasi toutes les semaines depuis la reprise de la revue de presse.
Donc on continuera d'en reparler, mais allez, redis-moi, c'est quoi ?
Eh bien, il s'agit d'héberger les données de santé des Français, donc pour les centraliser, mais dans une démarche de pragmatisme qui est la bonne porte d'entrée pour aller se livrer pieds et poings liés à des GAFAM. L'État français a choisi Microsoft.
Et le cloud de Microsoft, donc l'informatique voilà. En nuage, et les serveurs, les data centers de Microsoft.
Donc il y a pas mal de gens qui ont râlé là-dessus, et là c'est nouveau, on l'avait évoqué rapidement la semaine dernière, mais l'assurance maladie elle-même a dit « on n'aime pas trop ça ».
Donc, pas content. Effectivement, il y a pas mal de problématiques, des problématiques de souveraineté, parce que ces données-là, elles sortent de France, et donc la loi qui s'y applique n'est plus tout à fait la même. Et puis, n'oublions pas, c'est une entreprise américaine qui obéit à des lois américaines, et dans les lois américaines, il y a des clauses qui permettent aux agences de renseignement américaines de faire un peu ce qu'elles veulent, sans le dire. C'est des gag orders, des ordres de, comment on pourrait dire ça, de silence. C'est-à-dire que si jamais vous aidez la NSA ou la CIA ou un autre organisme américain, ils peuvent vous dire de ne pas en parler à vos clients.
Oui.
L'État français s'en est un petit peu inquiété, mais ça n'a rien donné parce qu'on a dit non, mais vous inquiétez pas, Microsoft n'a aucun intérêt à le faire. Non, mais certes, mais ils sont
obligés. Obligation de le faire, oui.
Donc c'est un sujet qui est vraiment très complexe parce que ça y est, les données normalement des Français sont en train d'aller sur ces data centers de Microsoft. Ça a été acté, déjà.
Et du coup, on va parler santé un peu plus en détail comme sujet principal, puisqu'il y a une autre affaire qui a fait grand bruit, qui était déjà là la semaine dernière, mais qui touche également le domaine de la santé, puisqu'il y a un éditeur de logiciels français qui équipe notamment un grand nombre d'établissements de santé, hein, des hôpitaux, des cliniques, etc.
Des laboratoires.
Des laboratoires, qui s'appelle Dédalus, et qui a eu une grosse fuite. Et les données de santé de 500 000 personnes sont parties dans la nature, ont pu être récupérées.
Alors, c'est pas une fuite d'eau ?
Non, c'est une fuite de données.
Alors, c'est quoi comme genre de données ? On a des descriptions.
Alors, il y a effectivement Next Impact à regarder ce qu'il y avait dedans. Déjà, on peut se dire 500 000 personnes, c'est pas tant que ça, finalement. Hein, je veux dire, Facebook.
60 millions.
Voilà, et puis oui. Facebook a donné à n'importe qui les données de dizaines de millions de personnes. Mais on retrouve quand même un certain nombre d'éléments.
D'éléments identifiants ?
Et d'éléments identifiants, notamment alors, les fameux emails et mots de passe des gens. Donc Jean-Marc Manac qui a écrit l'article, hein, rigole en remontant les mots de passe. Le fait que les gens utilisent le même mot de passe pour leur mail qu'ils l'utilisent pour le site, en tout cas pour ces éléments-là.
Mais ils ont des mots de passe compliqués, hein, avec des lettres, des chiffres,
des
caractères.
Des trucs, des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire, comme AZERTY UOP.
Ah oui, d'accord, hein, d'accord.
Si votre mot de passe, c'est ça...
Changez-le, parce que c'est pas il y en a plein qui l'utilisent. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, parce que ça permet de faire des statistiques sur l'usage des mots de passe. C'est intéressant, mais à chaque fois, c'est gênant, parce que, bah, on se rend compte qu'il y a plein de mots de passe qui sont idiots.
Le truc de base, hein, c'est de ne pas utiliser le même mot de passe sur les sites commerciaux ou n'importe quel site où on va, de ne pas utiliser ce même mot de passe pour notre mail. Parce que notre mail, c'est ça qui va servir à chaque fois qu'on fait une remise à zéro, qu'on a perdu son mot de passe. C'est là que tout va. Donc, si quelqu'un prend le contrôle du mail, il a accès à tout. Donc, le mot de passe du mail devrait être unique et utilisé nulle part ailleurs.
Alors, ouais, mais c'est quasiment impossible à faire. Hein. Je veux dire, on n'a pas des têtes à stocker dedans des dizaines et des dizaines de mots de passe hyper compliqués, différents, variés à
non,
chaque fois.
Alors,
on ne peut pas s'en rappeler.
Non, alors, il y a des logiciels de gestion de mots de passe. Il y a un truc qui s'appelle KeePass, par exemple. Il y en a plein d'autres. Donc, déjà, ça, c'est une solution. Mais même si on utilise le même mot de passe sur des sites à la con, au moins pour son mail, on n'utilise qu'un seul. Donc, retenir ne serait-ce que deux mots de passe, c'est le minimum du minimum. Parce que vraiment, il suffit de commander sur Internet, on met notre mail et un mot de passe pour s'identifier sur le site, sur des terrachiers de sites qui sont extrêmement peu fiables et qui se font percer tout le temps. Donc si on a le même mot de passe, mécaniquement, c'est inratable. Je veux dire,
je suis rassuré sur un point, c'est que les banques généralement vous forcent, et c'est finalement bien, à avoir un mot de passe dédié à la banque,
oui.
Des choses à base de numéros ou d'images qu'il faut cliquer. Donc ça permet d'éviter la réutilisation. Mmh. Mais il n'y a pas que ces données-là qui ont fuité, il y a d'autres données identifiantes.
Il y a tous les identifiants, nom, prénom, etc., le numéro de sécu, et des éléments sur la santé des gens, forcément. Voilà.
Donc on peut être au courant de gens qui seraient enceintes, par exemple, de ceux qui ont des maladies graves, et puis tout ça, c'est rattaché à votre numéro de sécurité sociale, donc ça, c'est quelque chose de très fort, et qui peut être utilisé, abusé. On peut utiliser ce genre de données-là pour s'inscrire à votre place, et prendre des emprunts, par exemple, des emprunts de consommation.
Oui.
Je n'ai pas exactement la liste des données dont on a besoin, mais il me semble que ça fait partie de ce genre de choses.
C'est aussi ce genre d'infos qui sont intéressantes pour faire du hacking social, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive à récolter des informations personnelles sur les gens...
Très précises. Hein.
Voilà, précises. L'escroc, il peut appeler quelqu'un en disant « Ah, bonjour, je suis votre banquier » et poser des questions personnelles et ou se faire passer pour voilà, quelqu'un qui vous connaît et qui sait que vous êtes parti en vacances, quel est votre nom de votre fille, etc., etc. Et du coup, ça met en confiance. Il y a ce genre d'arnaques qui sont possibles. Quoi.
Donc là, c'est une fuite qui est apparue parce qu'il y a eu des hackers qui ont essayé de faire chanter l'entreprise. Bah, en ce moment, on est dans un cycle. Il y a pas mal de hacking qui est en train de se passer.
Oui.
Et alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des problématiques là, ces derniers temps.
Oui, alors effectivement, il y a deux hôpitaux récemment. C'est déjà arrivé avant, hein, mais c'est de nouveau arrivé. Très récemment, à Dax et à Villefranche. Alors, je pense qu'il doit y avoir 40 000 Villefranche en France, mais qui ont été victimes de rançongiciels. Donc c'est des sortes de virus informatiques, en quelque sorte, qui vont chiffrer les disques, donc bloquer toute l'informatique, et envoyer un petit message en disant « Envoyez-nous des bitcoins, sinon, votre hôpital, votre système d'information, vous ne le récupérez pas. »
Alors, il faut faire gaffe, parce que des bitcoins, en ce moment, ils sont dans les 50 000 dollars le bitcoin. Ça va monter à une vitesse.
Ou des fractions de bitcoin, en tout cas. Alors, pourquoi ils s'attaquent aux hôpitaux ? Bah, c'est qu'ils se disent que l'hôpital, il a besoin de sauver des gens, il a des malades, donc il ne peut pas prendre le temps. Donc ils disent, bah, c'est une bonne cible, même s'ils ne sont pas très riches, c'est une bonne cible parce que eux, c'est une question de vie ou de mort, donc ils vont payer. Quoi.
Alors il semblerait aussi que ce soit des proies faciles. Les hôpitaux ne se sont pas spécialisés dans la sécurité informatique, ça se saurait, c'est pas leur domaine.
Bah, ils ont déjà du mal à faire fonctionner leurs services de médecine, donc effectivement, on peut imaginer que l'informatique, c'est pas leur priorité.
Donc résultat, effectivement, leurs machines se trouvent occupées, utilisées par d'autres personnes que celles auxquelles elles sont destinées. C'est embêtant. Non seulement on peut bloquer un service d'hôpitaux, mais on peut aussi donc voler les données des personnes qui sont dedans. On le constate, hein, 500 000 personnes qui sont touchées. C'est un problème qui est global. Il n'y a pas qu'en France que ça va arriver. On sait que ça arrive un peu partout. Hein. Il y a eu le cas de SolarWinds aux États-Unis. Il y a eu des cas en Inde où ils ont volé des quantités phénoménales de données des citoyens. Et c'est un peu embêtant et un peu inquiétant.
Oui, oui. Et puis dans le cas de l'hôpital, même si les gens sont professionnels et ont des procédures pour s'adapter dans ce genre de situation, on se doute que ne pas avoir ces outils dans un milieu qui est déjà tendu, ça rend le travail plus difficile. Donc forcément, il va y avoir des conséquences sur la santé des gens. Il y a quelques semaines, ou deux, trois mois peut-être, on avait fait un podcast sur les cas où l'informatique essaye de nous tuer pour de vrai. Mais là, c'est un cas concret.
Quand on pense qu'on est en période Covid, donc en plus, les hôpitaux ils sont un peu tendus déjà.
Mmh.
Donc là, ça ne va pas aider. Le laboratoire, les laboratoires concernés et l'éditeur de logiciels, à ton avis, ils prennent des risques là, avec tout ça ?
Avec quoi ?
Ah bah avec le fait d'avoir laissé fuiter des données en aussi grand nombre.
Alors bon, faut bien dire, hein, la fuite de données et le rançon logiciel, c'est pas lié, hein, c'est deux affaires, mais bon, ça montre que dans la santé, la question de la sécurité informatique est essentielle. Alors ce qui est intéressant dans l'affaire Daedalus et de la fuite de ces données-là, c'est qu'il y a un type qui travaillait pour l'éditeur et qui a détecté qu'il y avait des failles et qu'on pouvait très facilement accéder aux infos des gens sur Internet.
Il a détecté ça il y a quoi, il y a 2-3 jours
Non, il y a plusieurs années.
Quoi ? Plusieurs années ?
Oui, et donc il a plusieurs fois signalé le truc en interne en disant « attention, là il a fait des patchs pour corriger ». Et on lui a toujours dit « fais ce qu'on te demande, développe, c'est pas un problème, on s'en fout ». Et donc il est passé en mode lanceur d'alerte puisqu'il a finalement prévenu des autorités administratives dans le domaine de la santé pour dire « attention, le logiciel de l'éditeur qui m'emploie n'est pas sûr, c'est une passoire ». Et du coup, il s'est fait virer l'année dernière, pour faute, par l'éditeur.
Ah, c'est un peu rageant. Alors, ceci dit, là, ce qu'il avait fait, il avait raison de le faire, ouais. On le voit bien. Est-ce que lui, il peut se permettre de faire quelque chose que parfois tu aimes ?
Ah oui, bah oui, il peut dire « je vous l'avais bien dit ah, ». C'est mon plaisir ultime dans la vie. Hein, quoi.
Donc là, le lanceur d'alerte qui s'est fait virer, qui n'a pas été protégé par l'État ou les administrations, qu'on n'a pas écouté, qui n'a pas eu de conséquences, si ce n'est qu'il s'est fait virer, ce qui est moche pour lui. Bah voilà. Oui, effectivement.
Alors, contrairement à d'autres lanceurs d'alerte, ils s'en sortent pas trop mal, ils ont retrouvé un boulot dans la foulée, etc. Il y a des lanceurs d'alerte qui en prennent plein la gueule.
Oui, l'envie est détruite,
voilà,
des
voilà,
fois.
Parce que c'est vraiment très dur pour eux. Bon, heureusement pour lui, a priori, ça va plutôt bien. Voilà. Mais moi, je vois une réaction. Si j'étais Microsoft, j'aurais une réaction immédiate. Je dirais, vous voyez, vous donnez des petits éditeurs de chez vous pas sérieux. Ce sont des passwords. Au moins chez Microsoft, avec des vrais professionnels, vos données sont en sécurité.
Tu parles des vrais professionnels, ils se font avoir. SolarWinds, donc fournisseur des administrations américaines dans la sécurité. Les dirigeants accusent un stagiaire d'être responsable des fuites et du hacking dont ils ont été victimes. Et ils disent que le stagiaire, c'est de sa faute si le mot de passe un peu standard en interne a fuité. Tu sais ce que c'était ce mot de passe ?
Toto 55 ?
Non, c'était pas vraiment mieux, c'était SolarWinds 1-2-3.
Ah bah voilà.
Et donc c'est la faute du stagiaire, hein, voilà. Et donc c'est quelque chose de phénoménal, hein, gigantesque.
Alors, c'est doublement fou. Alors des mots de passe à la con, du genre admin, il y en a partout. Mais si tu fais ça sur un serveur de test, voilà, pour tester la dernière version, c'est peut-être pas très grave. T'as peut-être pas envie que quelqu'un vienne mettre le nez dans ce que tu fais, donc c'est peut-être pas nécessairement la meilleure solution, mais c'est pas important. Quand t'es en production, avec là où il y a les vraies infos, t'es pas censé avoir un mot de passe comme ça. Et en plus, t'es pas censé donner le mot de passe de production du truc super important à un simple stagiaire.
Bah, sauf si c'est le même mot de passe qu'ils ont dans les serveurs de test, où le stagiaire, d'habitude, il travaille. C'est ça. Stagiaire, il savait peut-être même pas qu'il y avait ce genre de porte d'entrée, de clé à une porte d'entrée qu'il y avait en production. Donc, l'accusé, c'est vraiment
c'est
de la mauvaise foi.
C'est dire, on est nul, mais c'est de sa faute.
Ah, c'est atroce. Ça. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que ce genre de données, bah, on les rassemble à plein d'endroits. Donc, le Health Data Hub, c'est un endroit dans lequel il y en a plein qui sont rassemblés, mais il y en a d'autres. Les cartes d'identité françaises ont été rassemblées avec les passeports et d'autres données administratives. Et on sait que, bah, en Inde, ils se sont fait choper sur ce genre de base de données. Il y a des centaines de millions d'informations individuelles qui ont fuité. Et donc, les mettre à un endroit, même si ce sont des spécialistes qui sont derrière, on ne peut pas garantir à 100% qu'il n'y aura jamais de fuite.
Il y a toujours un risque. Et effectivement, quand on concentre tout, le jour où ça pète, pour moi, c'est un peu comme les centrales nucléaires. C'est la centrale nucléaire, il n'y a pas souvent des accidents, mais quand il y en a un, ça devient tout de suite très grave. Parce qu'on a concentré beaucoup de trucs très, très néfastes au même endroit. Mais en même temps, c'est vrai que c'est quand même utile de pouvoir concentrer les données.
On en a la utilité, clairement. Hein,
parce que statistiquement, on peut étudier des tonnes de choses, on peut apprendre énormément. On a parlé du big data et toutes ces choses-là. Il y a un côté buzzword à la con, mais ça permet quand même de faire des choses qu'on fait difficilement autrement. En tout cas, ça démontre qu'il faut avoir un œil sur la façon dont les choses fonctionnent pour de vrai. Dire « c'est le problème de l'éditeur, c'est à lui de bien faire », ça n'est pas suffisant. Pour moi aussi, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, qui est que les administrateurs système devraient avoir une sorte de protection et des obligations, comme certaines professions. Comme
les architectes ?
Les architectes, les experts comptables, les journalistes, qui ont des obligations au-delà de simplement l'exécution de leur contrat, parce qu'on estime qu'ils ont une responsabilité sociale. Et pour moi, les administrateurs ont tellement de pouvoir parce qu'ils ont accès à énormément de choses, et ils ont aussi des devoirs parce qu'une boîte peut faire n'importe quoi, en avoir rien à foutre. Pour moi, il devrait avoir un statut un peu spécifique avec des droits et des devoirs et des protections spécifiques.
Ouais, tu veux une charte de déontologie, hein ?
Oui, oui, oui. Mais je pense qu'ils ont un rôle très important et que ce serait tout à fait adapté.
Ça va être compliqué à mettre en place, mais effectivement, ce serait peut-être intéressant. Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Salut. On espère que ça ira mieux.
Ouais.